France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La Lituanie fut autrefois un grand duché qui s'étendait sur une superficie infiniment plus vaste que celle qui est la sienne aujourd'hui. Dans cette Litvakie, tardivement christianisée, qui réunissait une grande partie de la Biélorussie, une part de l'Ukraine, des régions de Pologne et de la Russie, aura vécu pendant des siècles une très importante population juive, longtemps dans une relative quiétude et autonomie, longtemps aussi sous la menace des cycles de brimades et de violences. Dans un temps où Vilna, autrement dit Vilnius, pouvait être appelée la Jérusalem du Nord, avant d'être effacée de la carte de l'Europe par l'Allemagne nazie, avec, dans bien des cas, la participation active des populations non-juives de ces territoires, les Juifs litvaques purent développer là une vie spirituelle, culturelle, artistique et politique, ouverte au monde et à la modernité, dont le rayonnement fut considérable. Beaucoup des héritiers et survivants de ce monde litvaque ont laissé leur nom dans l'histoire du XXe siècle. Parmi d'autres, Emmanuel Levinas, Chaim Weizmann, Golda Meir, Marc Chagall, Soutine ou encore Marc Rothko et Romain Gary. En 2008, Victor Malka recevait dans Maison d'études Henri Mixelles et Yves Placereau pour Litvak, un ouvrage consacré à ce monde englouti des Juifs de Lituanie qu'il co-signait avec Suzanne Pourchier.
Bonjour à tous, maison d'études avec ce matin Henri Mixelles et Yves Placereau, l'héritage d'un monde juif disparu. Henri Mixelles, bonjour. Vous êtes journaliste et historien. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre sur Vilna, la Jérusalem de Lituanie. Yves Placereau, vous êtes vous spécialiste en droit des minorités et l'auteur d'un livre sur les États baltes. Avec Suzanne Pourchier, vous publiez tous deux aux éditions de La Découverte une enquête historique sur ces Juifs que vous appelez les Litvaks. C'est le titre du livre en question. Alors on appelle ainsi essentiellement les Juifs de Lituanie, mais en réalité, cela dépasse la notion géographique. Henri Mixelles.
Oui, largement, puisque cela comprend la Lituanie stricto sensu, et puis une partie, disons la Biélorussie, une partie de l'Ukraine, la Pologne orientale, une partie de la Lettonie, ce qui représente tout de même, grosso modo, plus de 300 000 km², alors que la Lituanie n'en a que 65, n'est-ce pas?
Mais c'est parce qu'ils ont représenté une histoire particulière que vous êtes intéressé à ces communautés juives?
Tout à fait. Ils ont quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est une branche d'un monde ashkénaze, c'est malheureusement un monde qui a disparu et qui représentait tout de même plus d'1,5 million de personnes au début du XXe siècle.
Yves Placereau, pourquoi les appelle-t-on les Litvaks?
Précisément à cause de la... de l'héritage lituanien, Litva voulant dire Lituanie en russe. On en a fait un ethnonyme et ça correspond à une population qui s'est forgée sur le territoire de la Lituanie, du Grand-Duché de Lituanie à une certaine époque.
Et marquée essentiellement par le russe ?
Marquée essentiellement par un territoire et une histoire, oui, une histoire très particulière qui tenait largement à la nature de l'État dans lequel ces Juifs sont arrivés.
Alors nous allons naturellement nous intéresser à tout cela, mais d'abord ce que j'ai trouvé personnellement de très intéressant dans votre recherche, c'est un livre finalement qui est une recherche historique, c'est que vous considérez qu'il y a eu une véritable civilisation litvaque. Yves Placereau peut-être ?
Oui, il y a une civilisation, on peut parler à notre sens d'une civilisation litvaque, parce que la population qui est arrivée là, en provenance de l'ouest et du sud, dans une zone qui au début n'était pas christianisée, a pu se bien avant la christianisation de la Lituanie, a pu se forger un habitus dans des conditions de liberté tout à fait exceptionnelles, et ils ont créé une véritable société particulariste juive assez libre qui a nourri le reste de l'histoire beaucoup plus que ça n'a été le cas dans le royaume de Pologne ou dans d'autres régions de l'Europe centrale orientale.
Nous allons naturellement nous intéresser aux différences qui marquent ces Litvaques de juifs polonais ou autres. Sur cette question de la civilisation, Henri Minsalas.
Oui, je suis entièrement d'accord avec mon ami Yves. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils se sont développés dans trois directions, à la fois sur le plan religieux, sur le plan culturel et sur le plan politique. Et c'est une chose qui est relativement nouvelle par rapport à d'autres rameaux du judaïsme qui n'avaient pas ces possibilités. Yves a sous-entendu qu'il y a eu, je le dis ouvertement parce que les auditeurs ne savent peut-être pas, ou certains ne le savent pas, à savoir qu'il y a eu une autonomie. Il y a eu une autonomie juive.
Vous en parlez longuement dans le livre.
Nous en parlons dans le livre, mais il est bon de le savoir, disons, oralement. Dans la mesure où cette autonomie juive qui a existé du 16e au 18e siècle a permis à toute cette civilisation de pouvoir s'épanouir. Et je crois que c'est important puisqu'il y avait des écoles juives, puisqu'il y avait un gouvernement, autonome, et qui pouvait discuter, je ne dirais pas d'égal à égal, c'est pas vrai, mais tout de même avoir une certaine audience auprès des autorités non juives.
C'était finalement une autonomie dont on peut dire qu'elle était administrative ou culturelle, qui était acceptée par la population locale, c'est bien cela?
Oui, absolument. Et puis il se trouve aussi le fait que si les Polonais, puisque ce sont surtout eux qui leur ont accordé au début, les Lituaniens également, bien entendu, c'était pour des raisons, disons, purement fiscales. Mais au travers des raisons fiscales, ça a débordé de son cadre. Et c'est pour ça que c'est important de le signaler, parce que depuis la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ jusqu'à la création d'Israël, il n'y avait pas eu quelque chose, disons, petitement, mais de semblable.
Yves Plasro ?
Oui, l'administration grand-ducale, peut-être plus que l'administration polonaise encore, a favorisé l'autonomie juive.
Pourquoi, justement ?
Parce que ça l'est, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait énormément de place. La notion d'espace est très importante dans cette région. Les gens n'étaient pas les uns sur les autres. On voulait attirer des gens, parce qu'on avait besoin d'immigrants, et les immigrants juifs étaient particulièrement recherchés à cause de leur savoir. Alors il y avait de la place, et de ce fait, on leur a offert une grande autonomie pour qu'ils puissent pratiquer non seulement leur religion, mais leur mode de vie en toute liberté. Et dans ce cadre administratif du Kahal, ils ont développé une société qui, précisément, permet de parler de civilisation, parce qu'elle était très autonome, très autonomiste.
Oui, il y a aussi la raison toute simple, c'est que certains juifs étaient reconnus comme de bons commerçants, des artisans avisés, des orfèvres. Il y en a même qui ont pu battre monnaie et ont eu l'autorisation de la part du gouvernement central de battre monnaie. Ils savaient gérer des domaines. Ils étaient en quelque sorte ils demandaient, n'est-ce pas, ces juifs, ils en avaient besoin.
Alors, puisque vous parlez l'un et l'autre d'une sorte d'âge d'or, d'ailleurs la formule figure dans votre livre, je voudrais d'abord donner quelques éléments d'information. Ils sont installés là, dans ce paysage géographique, dites-vous, depuis le XIVe siècle. D'où viennent-ils ?
Oui, pour le grand nombre, effectivement, ils commencent à être très nombreux à partir du XIVe siècle. Ils viennent essentiellement d'Europe occidentale. Ils viennent beaucoup de la vallée du Rhin. Ils partent à la suite de risques de dangers antisémites, notamment on les accuse.
Pourquoi viennent-ils s'installer là?
Ils viennent s'installer là tout simplement parce qu'il faut trouver un endroit où on peut travailler et vivre dans de bonnes conditions, et que les grands-ducs, ou plutôt les chanceliers grands-ducales, ont envoyé des demandes express auprès des administrations des communautés et des administrations municipales ou communales des villes d'Europe occidentale en disant: nous appelons et nous désirons des immigrants.
Je vous en prie.
Oui, il y a la raison bien simple, c'est l'époque des croisades. Il ne faut pas oublier que nous sommes 11e, 12e, 13e siècle et 14e siècle. Les puits empoisonnés, c'est la fête des Juifs, c'est la faute des Juifs. La peste noire de 1348, c'est la faute des Juifs. Et ceci est communément développé à longueur d'année par l'Église et notamment par les pays occidentaux, que ce soit la France ou que ce soit, comme disait Yves Placero, dans la vallée du Rhin ou de la Bohême, par exemple.
Et je rappelle que la Lituanie ne se christianise officiellement qu'aux environs 1380. Par conséquent, quand je dis officiellement, c'est tout à fait... En fait, la vérité, c'est que ça vient beaucoup plus tard. Ils arrivent dans un monde non chrétien et qui ne fait preuve d'aucun ostracisme vis-à-vis des Juifs.
Qu'est-ce qui caractérise cet âge d'or que vous évoquez, l'un et l'autre ?
C'est le fait de pouvoir se développer sans contrainte. C'est le fait de pouvoir résider en un lieu sans que forcément il y ait une interdiction. L'interdiction viendra plus tard. Ça n'a pas été un âge d'or tout le temps, nous le savons. Mais à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, il représente déjà un groupe plus ou moins constitué. Et précisément, les monarques ont besoin de disons la noblesse, ce qui se forme, même la bourgeoisie, en a besoin d'eux parce qu'ils sont un élément extrêmement... Et puis peut-être un élément...
Attendez, un élément extrêmement dynamique, vous voulez dire.
C'est cela, oui. Exactement.
Je vous en prie. Oui, le VAAD, le Conseil des pays lituaniens, représente un cadre de gestion de la vie juive extrêmement favorable et attractif. Et d'une part et d'autre part, on leur accorde dans la plupart des villes d'une certaine taille ce qu'on appelle le statut de Magdebourg, c'est-à-dire un statut urbain tout à fait privilégié qui leur permet de vivre et de prospérer au centre-ville sans contrainte, ce qui est très différent de ce qui se passait dans la plupart des villes d'Europe occidentale.
En évoquant cet âge d'or, j'étais très intéressé de voir que vous dites qu'il n'était pas rare de voir des religieux chrétiens hébraïsants marqués par le judaïsme. Vous avez des exemples à citer ?
La secte des judaïsants, par exemple.
C'est-à-dire ?
Qui était une secte qui est orthodoxe, si je ne me trompe pas, et qui, c'était des hébraïsants, des gens qui lisaient dans le texte et qui ont été très intéressés par l'Ancien Testament. Par exemple, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de... Il n'était pas rare, même que dans les campagnes, on voyait des gens qui parlaient, qui n'étaient pas juifs et qui parlaient yiddish. Parce qu'il faut savoir que dans ce qu'on appelle habituellement les shtetl, le shtetl, c'est-à-dire le village juif, il y a trois choses qui prédominent. Il y a d'abord la famille, il y a ensuite, la place du marché.
La vie religieuse.
La vie religieuse, la synagogue. Oui. Mais la synagogue, c'est pas seulement qu'un lieu de prière, vous le savez. Enfin, du moins,
l'auditeur le sait. C'est un lieu d'assemblée,
un lieu de réunion, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de formation. Et il y a enfin la place du village. Pourquoi la place du village? Parce qu'elle permet les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux, ce sont des juifs et des non-juifs.
Yves Placero. Oui,
j'ajouterais qu'au plan culturel, les juifs, encore une fois, pas mal vus, plutôt bien vu à cette époque-là, attire énormément les intellectuels chrétiens par la richesse de leur savoir. Et par conséquent, ils cherchent à se fréquenter, et ils se fréquentent effectivement très près. Donc il y a une sorte d'osmose qui se produit, qui fait que on emprunte culturellement à l'autre. Et c'est également une des spécificités peut-être de l'univers Litvak.
Je dirais même, c'est presque une idée pré-européenne.
Cet âge d'or va durer combien de temps ?
Jusque vers la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire juste avant les partages de la Pologne, qui, comme on le sait, c'est 1772, 92 et 1795, où la Pologne disparaît de la carte, et évidemment la Lituanie est annexée à la Russie.
Et notamment. Cet âge d'or va être suivi de ce que vous appelez l'ère des ruptures. Expliquez-nous cela.
Oui, l'ère des ruptures, c'est la disparition des institutions communautaires juives, qui d'ailleurs disparaissent un peu d'elles-mêmes parce qu'elles étaient en faillite. C'est aussi l'arrivée de l'administration russe qui modifie complètement les cartes et qui découvre en quelque sorte l'antisémitisme institutionnel que n'avait jamais imaginé l'administration de Radical.
Oui, je voulais ajouter surtout, c'est une question... il est important de savoir que, à la veille de la Révolution française, en 1789, au moment des partages précisément, il y a plus d'un million de Juifs qui vivent dans ce secteur qu'on peut appeler, grosso modo, le secteur Litvak. Il y a donc, enfin, à 200 ou 300 000 personnes près, il y a donc une densité, une importance géographique, démographique, etc., qui fait que c'est de loin la communauté la plus importante du monde. 20 fois plus importante, par exemple, que la communauté juive en France, en Alsace-Lorraine, par exemple.
Qu'est-ce qui, culturellement parlant, différencie ces juifs litvaques des juifs de Pologne, par exemple ?
Toute une série d'éléments. Peut-être un intellectualisme plus grand.
Chez les Polonais, il y a de grands intellectuels.
Il y a de grands intellectuels, absolument, mais sans doute cette espèce d'ascèse intellectuelle mêlée d'un esprit critique est moins répandue. En Lituanie, elle touche vraiment pratiquement l'ensemble de la population masculine.
Déjà à l'époque.
Oui. Oui, il y a une autre raison, c'est qu'il ne faut pas croire que la religion juive a été sans histoire. Il y a eu des secousses religieuses, il y a eu des hérésies, et il se trouve aussi, et c'est ça qui est important, qu'il y a eu des gens qui se prétendaient, et qu'ils l'étaient d'ailleurs, des garants de la, disons, de la religion juive. Ça a été le cas du fameux Gaon de Vilna.
Nous allons y revenir, mais pas avant d'avoir parlé d'abord d'un élément essentiel dans ce...
Oui, alors, ce que je pourrais dire, mais ce n'est pas de moi, c'est d'un ami que je connais bien, ils ont été un peu les jansénistes, disons, de la religion juive, dès le début, parce qu'ils ont apporté, ils ont donné une très grande importance au texte. Et
alors,
pour eux, c'est ça qui les
identifie. Je voulais d'abord parler du chassidisme qui va devenir,
c'est l'époque,
au fond, avec le mouvement Lubavitch que vous décrivez, une composante essentielle de l'identité litvaque.
Oui, alors le chassidisme qui est un piétisme du judaïsme qui se développe au sud de l'ère litvaque,
au XVIIIe siècle,
entreprend effectivement de se répandre et en montant vers l'ère actuellement biélorusse dans cette région, il se heurte à une réticence rationaliste qui s'oppose au côté un peu échevelé, un peu mystique et il y a deux effets. D'une part, le rejet complet du hassidisme, et d'autre part, la transformation du hassidisme en un autre mouvement, qui est le mouvement Chabad-Lubavitch, qui va devenir avec le temps pratiquement la spécificité de l'ère biélorussienne.
Oui, mais le mouvement hassidique va quand même s'imposer, malgré les oppositions du Gaon de Vilna et de ce que l'on appelait les mitnagdim, les opposants. Il va quand même s'imposer, il va s'étendre, il va connaître beaucoup de succès.
Il va pas s'imposer au nord de l'ère litvaque, il va s'imposer en se transformant au sud de l'ère litvaque. Mais au nord de l'ère litvaque, pas du tout. Et il y aura des bagarres absolument infinies.
Nicht gefinnen.
Je rappelle que nos invités ce matin sont le journaliste Henri Minzeles et le sociologue Yves Placereau, qui vient de publier tous deux avec Suzanne Pourchier, Les Litvaks, un livre aux éditions de La Découverte. Alors face à ce mouvement chassidique que nous évoquions juste avant la pause musicale, va se dresser en effet la grande figure du judaïsme rationaliste, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, qui va depuis lors occuper une place considérable dans le panorama de la culture juive. Qui est le Gaon de Vilna, Henri Minzeles?
Le Gaon de Vilna est un homme qui est né en Litvakie précisément, c'est-à-dire non loin de Vilna, et il a privilégié surtout les textes, même si c'était un peu moins populaire, parce qu'il privilégiait l'étude avant tout. Il a dit, pour avoir un œil...
Toute chose qui n'était pas dans le souci des chassidiques.
Absolument pas, parce que le souci des chassidines, qui est une doctrine populaire, qui d'ailleurs s'est étendue largement au-delà de Lubavitch, était beaucoup plus axé sur, disons, l'esprit que ce qu'il disait, que sur la lettre, ce que disait le Gaon de Vilna. Mais le Gaon de Vilna disait ceci, pour aller plus loin, il faut d'abord comprendre les textes. On ne peut pas les interpréter sans avoir une connaissance assez étendue et savoir de quoi il en retourne. C'était un peu l'esprit de Maïmonide en allant beaucoup plus loin et beaucoup plus près de nous.
Yves Placereau, là-dessus, sur le Gaon de Vilna, la personnalité qu'il est, l'affluence qu'il va avoir.
Sa personnalité est une personnalité manifestement extrêmement forte, extrêmement dominatrice, et qui va très rapidement prendre, parce qu'elle correspond, parce qu'elle symbolise extrêmement bien l'esprit litvak et l'esprit de sa région, et énormément de rébés, de rabbins et d'érudits vont s'engager dans ce combat, parce que c'est un combat, et c'est un combat qui se transforme quelquefois en pugilat.
Et qui va durer des décennies.
Qui va durer des décennies, qui va durer, oui, bien des décennies. C'est une forme de recherche, effectivement, d'approfondissement, par la réflexion, par la cesse, par l'effort, sans aucune concession à la mode. La mode du temps qui était effectivement beaucoup portée sur une sorte d'extase mystique et de la danse, etc. Tout ce qui était gesticulation horripilait le Gaon et ses disciples.
Il préférait l'étude et l'analyse froide,
méthodique, selon des méthodes parfaitement balisées, qui refusaient certaines techniques comme le pile-poule, par exemple, qui consiste à discuter extrêmement rapidement en lâchant des idées de façon un peu désordonnée. Non, pour eux, il y avait des méthodes d'analyse qui devaient être appliquées et ils y consacraient leur vie. Ils ne faisaient que ça.
Alors, va venir l'heure de la Haskala, ce qu'on a appelé le mouvement des Lumières, et elle va s'inspirer, écrivez-vous, des idéaux de la Révolution française.
Oui, absolument. Absolument, parce que ce sont des idéaux de liberté, c'est le sens civique, c'est la possibilité à quelqu'un d'être comme les autres, de devenir à la limite un citoyen, suivant les générations. Mais la différence, et elle est fondamentale, c'est que la Haskala, disons en Litvakie, dans les pays litvaks, c'était que les gens deviennent des individus égaux aux autres, mais quand même différents. C'est-à-dire en conservant leur identité, en conservant leur spécificité. Autrement dit, en restant juifs.
Oui, enfin, c'est vrai, bien sûr. Mais il faut voir aussi que la Haskala, elle emprunte beaucoup à la Aufklärung allemande.
C'est ça, le mouvement des Lumières allemand.
Oui, qui est...
La connaissance du monde, bien sûr.
Qui est quand même très, très portée sur l'individualisme, et porté aussi sur l'étude, la recherche, voire la découverte. Il y a un côté scientifique qui les rapproche un peu du monde de l'encyclopédie en France, qui est une spécificité de la Haskala qu'on ne met pas toujours assez en évidence.
Alors depuis lors, les Litvaks ont la réputation d'être des gens sobres et rationnels, familiers de l'approche intellectuelle des choses.
Oui, mais ça, quand on a passé, quand on a un héritage de, d'effort, de suer sur une page de la Torah pendant des nuits entières, effectivement, ça marque. Et toute la, et toutes les, on a choisi, nous avons choisi d'examiner l'exemple d'un certain nombre de Litvaks dans divers domaines, domaines scientifiques, domaines politiques, domaines littéraires. Et on retrouve un peu chez tous cet héritage de rigueur, d'effort, d'assaise, qui est effectivement une marque tout à fait singulière.
Oui, il y a encore autre chose, c'est que la Haskalah a permis aux Litvaks de pouvoir développer un certain nombre de, disons, d'éléments, d'idéologie, une langue, c'est-à-dire de parfaire un dialecte qui est devenu langue et qui a été le yiddish. Il faut savoir qu'ils avaient véhiculé le yiddish qui venait de la vallée du Rhin. Ils l'ont développé et cela a permis une littérature, une normalisation de la langue. Et puis, sur le plan aussi politique, ça
mais
a été...
Mais vous voulez dire que le yiddish des Litvaks est différent du yiddish polonais?
Ah, absolument.
Ou... Excusez-moi, mais je ne connais pas le yiddish.
Il est assez différent et c'est lui qui a donné le ton à tout ce qui est écrit et à tout ce qui est
par
dit.
Par quoi est-il différent? Par un vocabulaire plus riche, une...
Écoutez, vous donner un exemple. Mes parents ne sont pas de Litvakie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ils sont de Pologne. Eh bien, lorsqu'ils disent « qu'est-ce que ceci ?», ils disent « vos est dos ». Et les Litvaks disent « vos est dos ».
Ça veut dire ?«
Qu'est-ce que c'est ?»
Oui, mais
qu'est-ce que cela ?
C'est dans la tonalité, dans la musicalité des choses ?
Le « dos », c'est « dos ». Certains mots sont adoucis un petit peu en polonais, mais disons, ça pourrait être la différence entre quelqu'un qui parle à Paris ou qui est tourangeau de quelqu'un qui serait un ch'ti, par exemple dans le Nord, ou de quelqu'un qui serait un provençal. Bon. Mais alors, tous les trois parlent français.
Oui, il y a l'accent qui est très différent. Oui. Effectivement, moi je comprends assez bien le yiddish litvak et je comprends pas du tout le galicien, par exemple.
Ah, oui.
Donc
oui.
La prononciation est très différente. Il faut dire aussi que le yiddish litvak a absorbé, à cause de la connexité géographique avec la Prusse orientale, a absorbé pas mal de germanisme, ce qui le rapproche à certains égards de l'allemand. Et je peux dire un mot sur la normalisation linguistique. C'est que c'est très intéressant parce que on a créé, on a développé plus exactement à Vilnius un institut de la langue et de la culture yiddish qui s'est employé à normaliser l'yiddish sur la base d'un dialecte litvak standard.
C'est ça. Alors vous dites à un moment donné que la sagesse, c'est la qualité cardinale des Litvaks. Et moi je me suis demandé, qu'est-ce que vous entendez par la sagesse ?
C'est d'abord
c'est
ne pas se laisser porter par son instinct, par son enthousiasme, mais soumettre tout à la critique de l'esprit et rester face aux événements froid et assez cérébral. Je crois que c'est comme ça qu'on peut entendre la sagesse.
Parce que dites en hébreu cette formule, la sagesse, chochma, veut dire à la fois intelligence de l'esprit, mais aussi intelligence du cœur. C'est-à-dire que ça reflète à la fois une façon de bien faire les choses, mais aussi une espèce de moralité.
C'est vrai, parce qu'on a souvent reproché un peu aux Litvaks cette sécheresse du cœur et qu'il y avait quelque chose qui manquait dans leur chokhma. Non, vous avez tout à fait raison. Je veux tout de suite dire, et mon ami Placero et moi-même sommes bien d'accord, nous n'en avons pas fait une thèse, hein. C'est un certain nombre de constatations. C'est pas un annuaire non plus, hein. C'est quelque chose qui va quand même au-delà de cela.
Alors, vous avez cité le Gaon de Vilna d'un côté, mais évidemment, comment ne pas citer Emmanuel Levinas de l'autre, un enfant de ce que vous appelez, j'aimerais bien que vous nous expliquiez cela, la civilisation de l'intériorité. Placero.
Oui, c'est un petit peu à ramener à ce que nous disions tout à l'heure d'un espace de civilisation litvak. La culture litvak est une culture qui porte beaucoup vers l'intérieur, vers la réflexion libre et indépendante de l'individu par rapport aux événements en fonction de sa culture. Donc on se reporte vers l'intérieur au lieu de se laisser porter par un groupe d'individus qui il y a toujours une intériorisation qui est, je crois, la marque des Litvaks.
Oui, il y a aussi autre chose chez Levinas, c'est l'altérité, c'est-à-dire l'autre, celui qui est face à vous, que nous essayons de comprendre, que nous essayons de critiquer. Et je crois que c'est une particularité qu'on retrouve souvent chez les Litvaks. C'est cette universalité de l'âme.
Moi,
et,
Moi, je trouve qu'il est naturel que vous essayiez de récupérer pour le panorama des Litvaks un personnage comme Emmanuel Levinas, mais j'avoue que je n'ai jamais pensé, en le lisant ou en l'étudiant, qu'il était plus Litvak que français ou...
Ah non, nous n'avons pas dit ça non plus. Mais je m'en tiendrai d'ailleurs à quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Salomon Malka, qui a écrit d'ailleurs un livre sur Levinas, et il le parle justement au début de son ouvrage, lorsqu'il raconte la vie d'Emmanuel Levinas. Il parle beaucoup de ses attaches, de sa profondeur d'esprit, qui découle précisément des études qu'il a entrepris d'abord en étant dans la bibliothèque de son père ou en allant dans le lycée juif, pour ensuite, lorsqu'il est parti en France. Ça, quand même, c'est un peu comme son idéologie qu'il avait, la semelle de ses souliers, si je peux paraphraser Danton.
Un mot, je pense que, pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant, je pense que Levinas, comme toute personne, avait plusieurs identités et qu'il était à la fois, notamment, Litvak et français.
Bien entendu.
Donc, il a toujours revendiqué d'ailleurs son identité Litvak.
Et juif. Vous pourriez faire la part des choses. Vous pourriez dire ceci est totalement français, cette qualité ou cette écriture ou cette exigence dans la formulation des choses.
Je ne m'y risquerai pas.
Vous y risquez.
Non, il y a aussi l'apport de Heidegger. Mais... Il y a aussi l'apport de.
Il a quand même écrit un livre qui est très significatif, qui s'appelle Difficile Liberté.
Alors, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de ce que vous appelez les littératures. Original dans la pensée Litvak ou dans le paysage Litvak, et notamment un auteur comme Mendeley Mocher Sfarim, ça veut dire colporteur de livres. Dites-nous un mot, Henri Minzales, à la fois sur cet auteur, mais surtout sur ce mouvement littéraire.
Oui, il est considéré comme le grand-père de la littérature yiddish, puisqu'il y a eu, Mendeley, et puis après, il y a eu les deux autres, et notamment Peretz, qui était le fils.
Et puis Sholem Aleichem.
Qui est entre les deux. Mais il a cette particularité, c'est que il s'intéresse à la fois de ce qui se passe dans le monde juif, et il s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le monde extérieur. Le fait d'aller à Odessa, le fait de se promener dans les campagnes, le fait de connaître les juifs et surtout les non-juifs. Et alors, je trouve qu'il est vraiment spécifiquement Litvak dans son esprit, dans son raisonnement, et je dirais même dans sa gouaille, dans cette espèce d'humour un peu froid, un peu décalé, et qui, à mon avis, dépeint bien le personnage. D'ailleurs, les Kleinmenschen, c'est-à-dire les petits bonshommes qu'il décrit, sont très significatifs de cette, comme disait tout à l'heure mon ami Flacero, de la civilisation Litvak.
Pourquoi il a pris ce pseudonyme Mocher Sforim, colporteur de
livres? Mendeley Mocher Sforim, il l'a pris pour deux raisons. Il l'a pris d'abord parce que il voulait pas dire qui il était exactement, et puis deuxièmement vis-à-vis des autorités quand même tsaristes qui à l'époque avaient toujours très peur que ce soit des esprits un peu violents, un peu révolutionnaires, et qu'il fallait suivre de très près. N'oublions pas, nous sommes à l'époque du tsarisme, n'est-ce pas? Il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Placero, un dernier mot là-dessus.
Moi, je note que ces divers auteurs, nous en passons en revue un bon nombre, ils ont tous une approche commune qui est à la fois naturaliste et légèrement décalée et ironique. Et ça, c'est très particulier à l'esprit. Enfin, je ressens comme ça l'esprit Litvak. Et d'autre part, ils ont effectivement un regard sur autrui qui est à la fois amusé et bienveillant. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu trouver tout à l'heure chez Levinas. Donc, il y a des points communs.
Merci, monsieur. C'était Maison d'études. Nos invités ce matin étaient Henri Minzeles et Yves Placero. Équipe de réalisation, Yves Baudry, Bruno Sourcy et Victor Malka.
C'était Maison d'études, l'héritage d'un monde juif disparu par Victor Malka, diffusé la première fois le 26 octobre 2008 sur France Culture.